pas possible. Alors, je lisais Ruth chapitre 1er, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclan et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclan et Kiljan moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Juges chapitre 21, verset 25. Juges 21, 25, la Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons étudier ces livres de Ruth pendant quelques dimanches. Et pour bien comprendre le livre de Ruth, il faut revenir dans le contexte de Juges. Et j'espère que ceux qui étaient là, en été, ils se rappellent encore de c'était quoi le contexte des Juges. Car le contexte des Juges est très essentiel pour comprendre l'histoire des Ruth. Mais quelques éléments vont nous aider à bien comprendre ce texte et le contenu de ce texte ou bien de ces livres de Ruth. Et le premier élément que je vais nous présenter ce matin, c'est que le livre des Ruth est l'un de deux seuls livres de la Bible portant le nom d'une femme. C'est quoi l'autre livre? Quelqu'un a dit Genèse. Même au Congo, Genèse, ce n'est pas le nom d'une personne. Mais c'est possible. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Genèse? Ah. Ah. Elle n'est pas congolaise, elle est haïtienne. Parce que les gens, ils pensent que c'est nous qui avons des noms bizarres. Genèse. Alors, Genèse de la Bible, ce n'est pas le nom d'une personne. Donc, les seuls deux livres qui portent le nom de femme, il y a Ruth et Esther. Et ce que j'aime dans le livre de Ruth, c'est que ce petit livre de 4 chapitres a une profondeur incroyable. Il met en lumière l'histoire d'une femme remarquable, Ruth. Elle s'appelait. Mais en lisant le début de ces livres, on se demande mais comment ces livres parlera de l'histoire des Ruth? Parce que le livre commence dans un contexte qui ne leur ressemblait pas. Le livre parle d'un peuple qui n'est même pas attaché à cette femme. Elle est Moabite étrangère. Elle n'est pas dans l'alliance de Dieu. Elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Mais l'histoire qui commence, l'histoire des Ruth, commence dans un pays lointain, avec un peuple qui n'est pas son peuple, un peuple qui adore un Dieu qui n'est pas son Dieu. Mais l'histoire qui est contenue dans ces livres, c'est son histoire. Et même le livre, il porte son nom. Et c'est là que j'ai compris, au fait, l'histoire qui concerne ta vie ne commence pas nécessairement avec toi. Tout ce que Dieu fera pour toi ne commence pas nécessairement avec toi. Il y a des choses que Dieu est en train de faire à un certain endroit, mais qui ont lieu et qui ont trait à ton histoire et à l'histoire de ta vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser, quand, en 1988, un jeune couple qui venait de se marier, 2 semaines après, ils ont pris leurs affaires avec quelques personnes qui les accompagnaient et ils sont venus vers Asnières pour se dire, Dieu nous a envoyés pour commencer une église à Asnières-sur-Seine. Ils ont commencé cette église à Asnières-sur-Seine en 1988. Au même moment, il y avait un autre couple qui s'est marié au Brésil et Dieu était en train de mettre en eux cet appel pour la mission. Il s'est préparé pour partir en mission. Alors qu'ils étaient en train de le faire, il y a un jeune homme qui était en train de jouer dans la boue au Congo. Mais qu'est-ce qui réunit l'histoire de ces trois personnages que je viens de vous parler? Il y a quelque chose que Dieu était en train de faire. Le jeune homme qui était dans la boue au Congo ne savait pas qu'il y avait des gens qui étaient en train de commencer une église qu'on lui cédera plus tard. Il y a des choses qui concernent votre vie que Dieu est en train de faire avec des gens que vous ne connaissez pas, dans des endroits que vous ne connaissez pas, mais un jour, Dieu vous conduira pour comprendre que c'est Dieu qui l'a fait. C'est ainsi que le psalmiste pouvait le dire dans Psaume 31, verset 15, mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Ton destin est dans la main du Seigneur. C'est lui qui sait où est-ce qu'il t'amène. C'est lui qui sait qui va intervenir dans ta destinée. Il est en train de toucher les gens de près et de loin. Mais tu ne sais pas. Pour être en mesure de vivre tout ce que Dieu voudrait que tu vives, sois dans la présence de celui qui a le destin entre tes mains. Il y a des gens que Dieu a appelés de partout qui savaient qu'aujourd'hui on serait ici. Même les visiteurs, il y a peut-être une année, même 2 semaines, il y a peut-être une semaine, ils ne savaient pas qui sera dans cette salle. Mais il y a des choses que Dieu est en train de faire à des endroits que nous ne connaissons pas, avec des gens que nous ne connaissons pas, mais des choses qui vont servir à notre destin. À notre destin. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, ton histoire ne finira pas nécessairement là où tu as commencé. Et ton histoire, Dieu est en train de la forger avec beaucoup de gens. Beaucoup d'acteurs, et la plupart ne les connaissons même pas, mais qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu pour nous conduire là où Dieu nous veut. Et Dieu utilise des gens pour nous conduire dans cette destinée dans laquelle il nous veut. Donc je disais, c'est le seul des deux livres qui porte le nom d'une femme. Et Ruth, c'est maintenant qu'on commence. Et Ruth, cette femme, son nom veut dire ami ou amitié ou encore amitié sincère. Cette femme, elle a réellement incarné cette identité. Parce que dans cette histoire des Ruth, nous voyons l'histoire de l'amour. L'amour entre une belle fille et sa belle-mère. Ça n'arrive pas souvent. L'amour entre une belle fille et sa belle-mère. Mais aussi plus tard, l'amour entre Ruth et Boaz, qui plus tard deviendra son mari. Mais un autre élément important à souligner par rapport à ces livres, c'est qui rend le livre de Ruth encore plus spécial, c'est que c'est le seul livre de la Bible qui est nommé d'après un des ancêtres de Jésus-Christ. C'est le seul livre de la Bible qui porte le nom d'un des ancêtres de Jésus. À la fin de ce livre, au chapitre 4, nous trouvons une généalogie qui nous conduit jusqu'à David, le roi. Faisant de Ruth une partie intégrante de la lignée à partir de laquelle Christ est venu. Cette femme étrangère, cette femme méconnue, cette femme qui n'avait rien à voir dans l'alliance avec Dieu, mais elle vient apparaître non seulement dans la lignée royale de David, mais elle apparaît dans la lignée, la généalogie de Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 1er verset 5, la Bible mentionne le nom de Ruth quand on est en train de parler de la généalogie de Christ. La Bible dit, Salmon engendra Boaz de Rahab et Boaz engendra Obed. Et Ruth, on est en train de parler de comment Christ est arrivé dans ce monde. Une femme, c'est déjà rare, l'histoire des Juifs, d'apparaître dans la généalogie. Et une femme non juive, c'est encore très rare. On n'est pas dire impossible. On ne pouvait pas rêver ça. On ne pouvait pas prédire ce genre de choses. Et troisième élément que j'aimerais souligner ici, c'est que le livre de Ruth est une histoire de la providence des dieux. Dans ces livres, nous rencontrons la providence des dieux. Chrétiens, nous sommes parce que nous croyons que notre Dieu, il fait des miracles. C'est un Dieu des miracles. Et tous les jours dans nos vies, nous vivons des miracles, des choses que Dieu accomplit sur notre, dans nos vies. Et alors que nous nous attendons aux miracles de Dieu tous les jours, nous devons aussi nous attendre à la providence de Dieu. Tous les jours, parce que le Dieu des miracles, souvent, il utilise la providence pour intervenir dans nos vies. Le Dieu des miracles, il utilise souvent la providence pour intervenir dans nos vies. Et providence, qu'est-ce que je veux dire par providence? C'est quand Dieu utilise les événements naturels pour accomplir des résultats surnaturels. Des choses normales, des choses de tous les jours, des événements de la vie de tous les jours, Dieu les aligne pour accomplir ce que lui-même voudrait faire. Et souvent, nous ne voyons pas et nous ne pouvons pas le prédire. En regardant ce qui se passe, nous ne savons pas dire ce que Dieu va faire. Il y a même des situations que nous traversons et on se pose la question, même si Dieu intervenait, il va passer par où? Il va commencer par où pour intervenir dans ma situation? Tu t'es dit, si Dieu m'est demandé ce qu'il voudrait que je fasse pour lui, je ne saurais même pas lui proposer la voie par laquelle passer. Parce que ce que tu vois, ça te dépasse. Mais Dieu n'est pas surpris par des choses qui nous surprennent. Dieu n'est pas étonné par des choses qui nous arrivent. Les mêmes choses qui semblent difficiles, compliquées, impossible pour nous, ce sont les mêmes choses que Dieu peut utiliser pour transformer et faire quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Quand Dieu conduit nos vies, nous ne comprenons pas toujours comment il est en train de le faire. Nous rencontrons des événements, certaines qui nous font du mal, qui nous font peur, mais quand nous croyons en Dieu, nous pouvons croire qu'il y a une main de Dieu qui est en train de conduire les choses. Parce que la Bible ne dit-elle pas dans Romains chapitre 8, au verset 28, que nous savons du reste? Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce dessein. La Bible ne dit pas toutes bonnes choses. La Bible dit toutes choses, même ces choses qui ne semblaient pas être bonnes. Même ces choses qui nous font peur, ces choses qui nous surprennent, ce sont des choses que Dieu peut faire concourir pour notre bien. Toutes choses ne sont pas nécessairement bonnes, mais ce que Dieu va faire, c'est pour notre bien. Il le fait conquérir, concourir pour notre bien. Dieu, il utilise la providence pour nous faire du bien. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, avant d'aller très loin, Dieu ne panique pas face à nos difficultés. Les choses qui nous font mal, nous venons de les chanter. Toutes choses sont possibles à Dieu. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je sens une force venir. Quand nous chantons, je lève mes mains. Ça veut dire, je reconnais que je ne peux pas, mais là, la solution viendra de quelqu'un. D'ailleurs, je lève mes mains pour me remettre à celui qui peut apporter la solution. Cinquième élément ou quatrième, je ne sais plus. L'histoire des Ruth, c'est aussi une histoire de la conversion et de la rédemption. Non seulement une histoire de la providence divine, c'est aussi une histoire de la conversion et de la rédemption. Voici une femme moabite. Elle reçoit un coup de fil. Non, non, c'est Dieu qui l'appelle. Elle est moabite. Elle est en dehors de l'alliance de Dieu. Mais à un certain moment de sa vie, elle choisit Yahweh. Elle choisit de rentrer dans l'alliance de Dieu d'Israël. Elle quitte son peuple. Elle quitte ses divinités. Elle quitte ses dieux pour suivre le Dieu de Naomi, sa belle-mère. Ces livres de Ruth présentent un thème puissant, c'est celui de la rédemption. La rédemption, c'est une doctrine clé, non seulement du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, parlant de la rédemption, la Bible utilise les concepts ou bien les termes du marché d'esclaves. On était esclaves, on a été rachetés. Mais dans l'Ancien Testament, la Bible parlant de la rédemption, elle utilise les terres et les propriétés, et même des fois des personnes qui peuvent être esclaves à cause des situations de la vie. Alors quand je dis rédemption, qu'est-ce que je veux dire? La rédemption, c'est lorsque une personne paye le prix pour la libération de l'autre, pour le rachat de l'autre. Et dans l'histoire des Ruth, il ne s'agit pas seulement des terres. Mais il s'agit d'une personne, il s'agit de terres qui ont été rachetées par un certain Boaz qui représente l'image du Rédempteur. Le livre des Ruth. Je l'ai dit en commençant, c'est un livre qui n'a que quatre chapitres. Et quelle est la structure qu'on peut donner à ces quatre chapitres? En lisant ces livres, je peux donner des thèmes à chacun. De chapitres de ces livres. Ce sont les quatre points ou les quatre chapitres qui apportent une dimension à cette histoire d'amour, à cette histoire de rédemption. Le premier chapitre, moi je l'ai intitulé La résolution de l'amour. La résolution de l'amour, pourquoi? Parce que Ruth, une jeune Moabite, elle prend la décision audacieuse de suivre Naomi vers un peuple qu'elle ne connaît pas, pour adorer un Dieu qu'elle n'a jamais connu, vers des gens qui ne la connaissent pas. Elle décide parce qu'elle aime, elle a résolu de suivre par amour. Donc j'ai dit la résolution de l'amour, et deuxième chapitre, on peut l'intituler la réponse de l'amour. Dans le deuxième chapitre, on voit à Bethléem, pendant la moisson, Ruth rencontre un certain Boaz. Il y a une connexion qui se crée. Un amour commence à naître. La réponse de l'amour. Troisième chapitre. Moi, je peux appeler la demande de l'amour. La demande de l'amour dans une histoire des gens qui s'aiment. Nous voyons une histoire surprenante. Ruth demande à Boaz de la racheter. Elle fait ça comment? En faisant une sorte de demande de mariage. Veux-tu m'épouser? Même dans leur époque, c'était étrange. C'est l'homme qui venait vers la femme. Mais quelque chose s'est passé. Elle fait une demande de rachat qui devient aussi une demande de mariage. C'est pour ça que je l'appelle la demande de l'amour. Et quatrième et dernier chapitre, moi je peux l'appeler la récompense de l'amour. L'histoire se termine par un mariage entre Ruth et Boaz et la naissance d'une nouvelle famille qui sera à l'origine de la lignée du roi David, mais aussi de Christ qui devrait venir. On voit l'amour qui a été récompensé. Il y a le mariage qui a été mis en place. Il y a une famille qui commence à se former. Il y a des enfants qui naissent de cette famille. Il y a le roi David qui viendra. Il y a Christ qui viendra. La récompense de l'amour. Je dis la résolution de l'amour, la réponse de l'amour, la demande de l'amour et enfin la récompense de l'amour. Les quatre chapitres des Ruth. Mais quand on commence à lire cette histoire, vous verrez avec moi que le livre des rites, il commence avec une famine. Mais j'aime Dieu. Elle finit avec une famille. L'histoire des Ruth commence avec des funérailles. Mais l'histoire des Ruth se termine avec une célébration de mariage. Et c'est ici que je me redire encore. Peu importe comment ton histoire a commencé, avec Dieu, elle n'est pas obligée de finir de la même manière. Alors que Ruth commence, l'histoire de Ruth dans ses livres commence avec des funérailles, des gens qui sont en train de mourir, des gens qui sont en train de perdre. Il y a la famine, il y a la crainte, mais à la fin de l'histoire, il y a la célébration, il y a la joie. Alors, je ne sais pas où est-ce que toi tu en es maintenant dans l'histoire de ta vie. Peut-être que tu es encore à l'étape des pleurs. Mais j'aime la parole de Dieu. Elle dit, quelle que soit la longueur de la nuit, la Bible dit, les pleurs, c'est la nuit. Mais le matin, elle viendra avec des cris de joie. Si il faut pleurer, on pleure quand ça fait mal. Mais quand Dieu va te faire des tic-tic, quand Dieu va te faire des guilis, tu n'auras pas le choix que de rire. C'est ainsi que la Bible dit dans Psaume 126, il dit, lorsque l'Éternel ramenant les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Un peu pour dire ce que nous sommes en train de vivre, on ne pouvait pas l'imaginer. Il dit, nos bouches étaient remplies des cris de joie. Dieu remplissait nos bouches de rire. Un peu pour dire, on n'a pas compris comment il a fait, mais on s'est retrouvés en train de rire. Il y a des situations qui nous font pleurer. Et on ne sait même pas dire comment Dieu fera pour nous faire rire. Mais quand Dieu le fait, il le fait très bien. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait très bien. Quand il faut pleurer, pleure. Car le temps de rire viendra. Et quand le temps de rire viendra, tu vas bien rire. Quand c'est l'Éternel qui s'est fait rire, alors tu riras bien. Et la Bible dit, dans ce même passage de Psaume 126, il dit, lorsque nous étions en train de célébrer, même ceux des nations, ils pouvaient dire, l'Éternel leur a fait du bien. Quand Dieu le fera, ce n'est pas que toi qui le verras. Même ceux de l'extérieur, ils pourront voir, et ils vont reconnaître que c'est venu que de l'Éternel. C'est Dieu qui ne peut faire que ce genre de choses. Et l'histoire des Ruth finit avec une histoire des célébrations, alors qu'elle commençait avec des moments de pleurs, des moments de funérailles, des moments tristes, mais elle finit avec des moments de célébration. C'est ça la présentation du livre des Ruth. Est-ce qu'on est prêt de rentrer dedans? Est-ce qu'on est prêt? On veut, Et aujourd'hui, on va juste voir les cinq premiers versets de ces livres, les cinq premiers versets du premier chapitre. Je vais encore relire. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, il partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme, Naomi, et ses deux enfants s'appelaient Mahlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens et de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, elle mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Le premier verset de ces passages et de ces livres, il dit, au temps des juges, il nous donne le contexte, ce qui était quand ces choses se sont passées. Il y a des commentateurs de la Bible qui disent que c'est les événements du livre de Ruth se sont déroulés peut-être dans Juges chapitre 10, quand il y avait les juges Jaïr qui était en train de régner. Il dit que c'est peut-être à ce moment-là. Ici, je ne peux pas confirmer, personne ne peut confirmer, on n'était pas là. Mais après les études qu'ils ont faites, ils se sont dit, c'est peut-être à ce moment-là que les événements de ces livres interviennent. Mais nous savons tous le contexte du livre des juges, pas seulement du livre des juges, mais de l'époque des juges. Le contexte, c'était quoi? Dans Juges chapitre 21, verset 25, la Bible dit ce qui suit. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les gens ne suivaient pas la parole de Dieu. Les gens ne suivaient pas ce que Dieu voulait. Dieu leur a donné la loi, il leur a donné la manière de vivre, il leur a montré comment se comporter, ce qu'ils devraient faire. Mais à ce moment-là, chacun faisait ce qu'il voulait, pas ce que Dieu voulait, mais ce que chacun voulait. Ça me rappelle d'une époque qui n'est pas très loin de la nôtre, je dirais peut-être la nôtre. Aujourd'hui, le conseil le plus donné aujourd'hui aux gens, c'est fais ce que ton cœur te dit. Il dit, fais comme tu le sens, un peu pour dire, tu es celui qui définit ce que tu dois faire. On n'est pas très loin de ces concepts où chacun fait ce qu'il veut. Et quand on te dit, fais ce que tu veux, c'est le pire de conseils qu'on puisse donner à quelqu'un. Fais ce que tu veux, ce n'est pas ta volonté qui devra conduire ta vie, parce qu'en fait, même ton existence n'a pas dépendu, ne dépend pas de ta volonté. Ce n'est pas parce que tu as voulu que tu as commencé à exister. Et pourquoi tu voudrais conduire cette existence par ce que tu veux? Si même ton existence ne dépend pas de ce que tu veux, fais ce que tu veux. Fais ce que ton cœur te dit. Non, je me sens pas bien. Je me sens pas bien dans ce corps. Je ne vais pas dire ça. Fais ce que tu veux. Tu peux changer et devenir autre chose. Fais ce que tu veux. Non, je me sens pas bien de cette manière. Fais ce que tu veux. Je ne suis pas ici en train de négliger ou bien de minimiser ce que les gens ressentent. Les ressentiments sont réels. Et aux sentiments réels, il faut une solution réelle. Ici, je ne suis pas en train de me moquer de ceux qui pleurent, de ceux qui disent ces genres de choses. Loin de moi de me moquer de ces genres de personnes ou de ces genres de situations. Mais je veux juste dire, est-ce que nous proposons la meilleure solution? Si la solution vient de ce que toi tu veux, de ce que ton cœur te dit. Qu'est-ce que la Bible dit de nos cœurs dans Jérémie chapitre 17, verset 9? La Bible dit ce qui suit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Fais ce que ton cœur te dit. Le cœur, il est tortueux. Il est méchant. Et tu veux faire ce que lui, il veut? Hein, tonton Emmanuel? Non, pas toi. Moi non plus. J'aime la version Darby. Dans la version Darby, la Bible dit, Le cœur est trompeur par-dessus tout. Incurable. Qui le connaît? Le cœur, il est trompeur. Et mettons, on t'a dit, fais ce que le trompeur dit. Les trompeurs font quoi? Ils trompent. Fais ce que le trompeur dit. Alors à l'époque, c'était quoi le concept? La situation, c'est une situation d'anarchie spirituelle et morale. Pendant la période des juges, le peuple s'est détourné fréquemment de Dieu pour adorer les idoles des nations. Et ceci entraînait des cycles, un cycle de péché, d'oppression, de repentance et de délivrance par l'intermédiaire des juges. Ça, on l'a vu pendant l'été. Il y a le péché, il y a l'oppression ou le jugement. Et là, après le jugement, il y a la repentance. Et après la repentance, il y a la délivrance. On savoure un peu la délivrance, le péché. Après le péché, le jugement. Après le jugement, on pleure, ça nous fait mal. Repentance. Après la repentance, Dieu envoie des juges, il y a la délivrance. Mais comme si on avait oublié le péché. Après le péché, le jugement. Après le jugement, la repentance. Et après la repentance, la délivrance. C'était le cycle qu'il y a dans le livre des juges, à l'époque des juges. C'était ce qui s'est passé pendant ce moment. Donc c'était ça la vie des gens tous les jours. Et dans ces moments, dans ce genre de situation, il y avait aussi cette instabilité économique, instabilité spirituelle. C'est reflété aussi sur le plan économique et sur le plan de la vie de tous les jours. La famine était fréquente souvent et perçue comme étant jugement de Dieu. À l'époque, quand la famine arrivait, il se disait, c'est sûrement Dieu qui est en train de nous punir. Il s'est rappelé de ce que Dieu a dit peut-être dans Deutéronome chapitre 28, à partir du 15e verset. Quand je lisais ces malédictions, je me disais, mais c'est Dieu qui dit ça. Il dit, lorsque vous allez vous détourner de moi, si vous vous détournez de moi, regardez ce qui va vous suivre. Et ces gens, ils comprenaient ce genre de choses parce que Dieu leur a dit. Le même Dieu qui a dit, lorsque vous allez obéir, regardez les bénédictions qui seront attachées. Il a dit, lorsque vous allez choisir de désobéir, il y aura aussi des conséquences. Et l'une des conséquences, il y aura la famine, il y aura des problèmes économiques, une instabilité économique. Alors pour eux, à l'époque, des fois, quand il y avait famine, on comprenait que c'était peut-être le jugement de Dieu. C'est Dieu qui est en train de juger. Et c'est ça le contexte de ce passage. La Bible dit, à l'époque des juges. Élie famine à Bethléem. Élimélec, Naomi et leurs deux fils, ils fuient la famine. Au verset 1er et verset 2, la Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Une famine considérée comme étant un jugement de Dieu pour les péchés des hommes. Ils se sont détournés de Dieu et la conséquence, il y a le jugement. Et dans cette réalité des famines, une famille, la famille d'Élimélec, se décide de fuir, d'aller chercher refuge ailleurs. Cette famine frappe Bethléem. Ça me surprend. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Maintenant, il n'y a pas du pain dans la maison du pain. Il n'y a pas à manger dans la maison du pain. Et ils sont dans la maison du pain, il y a famine. La réalité de Bethléem à ce moment, c'était qu'il n'y a rien, il y a famine. Mais l'identité de Bethléem, c'était quoi? La maison du pain. Et si je vais dire, la réalité de Bethléem n'a pas changé son identité. Juste parce qu'il n'y avait pas du pain à ce moment-là, Bethléem n'a pas cessé d'être Bethléem. Juste parce que les choses ne marchaient pas comme Dieu l'a dit, ça ne veut pas dire que tu as cessé d'être ce que Dieu a dit que tu es. Bethléem, la maison du pain, il n'y a pas de pain. Et Bethléem n'a pas changé de nom, n'a pas changé d'identité. Je me souviens, il y a plusieurs années, un ami, frère avec qui on a fait le ministère pendant longtemps, s'appelle Benjamin Pongimoke. Il a fait une prédication avec le thème « Faudra-t-il rester à Bethléem ou aller à Moab ?» Et moi, toutes les fois, je me moquais de lui, je dis « C'est toi qui sais, nous on ne sait pas, il y a quoi déjà à Bethléem? Il y a quoi à Moab ? » Il faudra-t-il rester à Bethléem ou aller à Moab? C'est la question qu'on se pose quand on se retrouve dans ce texte. Faudra-t-il rester à Bethléem, qui est la maison du pain, ou aller à Moab, où on peut trouver quelque chose? Et la Bible dit, un homme de Bethléem, de Juda, il partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Alors, c'est qui Moab? Pour connaître Moab, il faut revenir dans Genèse chapitre 19, particulièrement au verset 37. Moab, c'est le fils et le petit-fils de Lot. Vous avez compris, hein? C'est son fils et petit-fils au même moment. Ça veut dire quoi? C'est le fils qu'il a eu, cette relation qu'il a eue avec sa fille. Donc c'est le fils de sa fille. La relation n'était pas bonne. Les Moabites, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient des dieux étrangers, des divinités qui n'honoraient pas Dieu. Et Dieu, il a demandé à son peuple, ne soyez pas en relation avec ce genre de personnes. Maintenant, il y a famine, il n'y a rien à manger. À Bethléem, la cité de David, dans le peuple de Dieu, où il y a l'alliance de Dieu, il n'y a pas de pain, il y a de famine. Et on choisit d'aller où? À Moab. À Moab, là où Dieu ne veut pas qu'on soit. Il a choisi d'amener sa famille pour aller chercher refuge à Moab. Et à la question, Élimélec avait-il raison d'amener sa famille à Moab? Avait-il raison? Il y a famine ici à Bethléem. Et de l'autre côté, il y a le pain. Un père, il prend sa famille, il l'amène là où il y a le pain. Il a raison ou il n'a pas raison. Il y a un père qui me regarde et dit, il a raison ou il n'a pas raison. Ce n'est pas une question piège. Il a raison. Ça, c'est un père responsable, n'est-ce pas? Il faut amener les gens là où on va manger. Alors moi, je ne vais pas dire oui ou non. Je vais dire ça dépend. Je veux dire, ça dépend. Parce qu'on est souvent pressé de juger ce que les gens font, ne connaissant pas le contexte. Je peux directement dire, il a eu tort. Comment tu peux prendre tes enfants de la maison du pain à la maison de Dieu et aller à Moab, chez ces gens-là qui n'adorent pas Dieu, qui adorent des idoles? Comment tu peux faire ce genre de choses, toi? Élimélec, tu sais même ce que ça veut dire, Élimélec. Ça veut dire Dieu est mon roi. Quelqu'un dont le nom témoignait même de la place de Dieu dans sa vie. Dieu est mon roi. Ça veut dire c'est lui qui prend soin de moi. Comment tu peux faire ce genre de choses? Ça dépend. Pourquoi ça dépend? Ça dépend de si Dieu est avec toi. Si c'est Dieu qui t'a conduit de partir, alors tu as raison. Si c'est ta peur qui te pousse d'aller, alors tu as tort. Le problème, ce n'est pas de partir ou de rester, mais le problème, c'est d'agir sans Dieu. Parce que moi-même, je peux voir, en regardant de mes propres yeux, je me dis, il y a la vie à Moab, il n'y a rien ici. Alors je décide sans même consulter Dieu. Quand je décide d'aller vers ce que je pense être bon sans consulter Dieu, alors j'ai tort. Parce que ça peut sembler bon, ça peut sembler intéressant, mais ce n'est pas peut-être ce que Dieu voudrait pour moi à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il amène sa famille, ils vont à Moab, et on se dit, avait-il raison de le faire? Je le disais, le problème, ce n'est pas de partir ou de rester, mais le problème, c'est d'agir sans Dieu. Il y a des problèmes, des choses que nous rencontrons dans notre parcours, la tension, la pression, des choses qui nous font peur. Qu'est-ce que nous faisons avant toute chose? Est-ce que nous cherchons des solutions par nous-mêmes ou nous consultons Dieu? Que ce soit problème de foyer, problème de couple, problème de finances, problème dans le travail, problème, tout ce que nous avons comme problème. C'est quoi notre première réaction quand ça nous arrive? Est-ce qu'on cherche la solution par nous-mêmes ou est-ce qu'on pense à Dieu? Parce que la réponse à cette question va définir et déterminer la place de Dieu dans votre vie. Parce que c'est bien, nous pouvons venir adorer, célébrer Dieu, lui dire, tu es Seigneur, tu es roi, nous dépendons de toi. Mais quand il y a un petit problème, on se dit, c'est moi, je dois trouver une solution à ça. On est en train de dire à la même personne qu'on a appelée Père, Père responsable, non, je ne t'ai fait pas assez confiance, laisse-moi le faire. Ou bien peut-être, ça ne t'intéresse pas, peut-être que tu ne vas pas le faire, laisse-moi trouver la solution. Mais lorsque tu cours vers Dieu, c'est parce que tu reconnais que toi, tu es limité dans la manière de voir des choses. Même si c'est un domaine que tu maîtrises, tu es limité. Le fait de venir d'abord devant Dieu, c'est pour que lui, il t'oriente dans ce que tu dois faire. Parce qu'il y a une histoire qui pendant longtemps m'a troublé. On le trouve dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, les mages sont venus rendre visite à Christ, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, ne pars pas, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ce verset m'a fait du mal pendant longtemps. Je me suis dit, mais Dieu n'était-il pas capable de protéger Jésus sous le nez d'Hérode? Hérode cherche à tuer Jésus. Jésus vient de naître. Il veut tuer tous les enfants. Il veut tuer Jésus. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, prends cet enfant-là. Fuis. Il ne dit pas seulement pars. Il dit, fuis. Pas jusqu'en Égypte. Restez là-bas jusqu'à ce que je vous dise, parce qu'il y a Hérode qui essaiera de le tuer. Dieu n'est-il pas capable de le protéger sous le nez d'Hérode? C'est quoi la réponse? Est-ce que Dieu est capable? N'est-ce pas qu'il est capable? Alors, si Joseph croyait ce que vous venez de dire, il dirait, mais Dieu, même ici, tu peux le faire. Pourquoi dois-je partir? Joseph est parti avec sa famille parce que Dieu l'a orienté. Parce que chrétiens que nous sommes, nous allons nous dire, je fais confiance à Dieu, je reste. Tu vas en disant et en déclarant des bonnes choses, tu seras en train d'aller à l'encontre de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu attend de toi. Tu dis, c'est par la confiance que j'ai dans le Seigneur que je reste, alors que la volonté du Seigneur est que tu partes. Et quelqu'un d'autre, il dira, je fais confiance à Dieu, je pars. Parce que moi, j'ai vu, et je me suis dit, la solution, c'est en partant. Tu seras en train de partir parlant de la confiance à Dieu, mais tu seras en train de faire quelque chose qui n'honore pas le même Dieu en qui tu dis que tu as placé la confiance. D'où l'importance de rentrer en contact avec Dieu avant toute décision. D'où l'importance de chercher la volonté de Dieu avant de tout faire, avant de faire quoi que ce soit. Partir, c'est bien, mais il faut partir avec Dieu. Parce que j'ai compris une chose dans mon parcours, on est en sécurité qu'au milieu de la volonté de Dieu. On est en sécurité que là où Dieu nous veut. Parce que notre sécurité ne dépend pas de ce qu'il y a autour de nous. Si Dieu voudrait qu'on reste en Bethléem, même s'il y a famine, on est en sécurité à Bethléem parce que c'est là que Dieu nous veut. Si Dieu nous veut à Moab, chez les Moabites, même s'il y a des idolâtres, on est en sécurité là-bas parce que c'est là que Dieu nous veut. Donc l'importance n'est pas de vouloir partir ou de rester, mais l'importance, c'est de consulter Dieu avant de tout faire. Et c'est ici que je suis venu dire à quelqu'un, toutes les fois que nous essayons de résoudre nos problèmes sans Dieu, souvent, nous les rendons pires. Toutes les fois que nous essayons de résoudre nos problèmes sans Dieu, souvent, nous empirons les mêmes situations parce que nous avons choisi de faire d'abord sans Dieu. Et souvent, c'est quand ça devient pire qu'on vient, on dit, mais Dieu, viens m'aider. Et Dieu, il dit, je t'attendais au coin. Tu aurais dû faire ça avant de faire ce que tu as fait. Tu aurais dû faire appel avant que ça n'aille mal. Souvent, nous attendons que ça soit compliqué pour qu'on dise, Dieu vient maintenant, viens. Mais Dieu, il voudrait, même avant, même quand je pense que je connais. Parce que la vérité, l'herbe n'est pas toujours verte de l'autre côté. Moi, c'est ce que je vois. Moi, c'est ce que je comprends. Mais il y a des choses que Dieu voit, il y a des choses que Dieu comprend que je ne comprends pas. Pourquoi faire confiance à Dieu? Pourquoi se confier à l'Éternel? Parce qu'il voit ce que je ne comprends pas. Parce qu'il comprend ce que je ne comprends pas. Alors, moi qui suis limité, je ne veux pas prendre des décisions dans les limites de ce que je suis. Je veux aller comme Dieu me conduit. Je peux penser qu'une chose est bonne alors qu'elle n'est pas bonne pour moi. Je peux penser que telle chose, c'est ce que Dieu voudrait pour moi, alors que ça ne représente pas ce que Dieu voudrait. Alors il faudra que nous soyons en mesure de consulter Dieu avant toute chose. Versets 3 et 5, pour clôturer, la Bible dit, Élimélec, mari de Naomi, mourut et resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes, Moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon, Kiljon. Mourir aussi tous deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils. Ils arrivent à Moab, tout semble aller. Ils s'installent dans un appartement, dans une tente trois pièces. Ils ont trouvé un parking pour leurs ânesses. La vie va très bien. Mais un beau jour, l'hôpital général de Moab appelle Naomi. Son mari n'a pas survécu. La tristesse commence. Quelques temps après, les deux fils, ils se marient. Quelques temps après, on appelle Naomi. Même ses deux fils sont morts. Naomi n'a plus sa protection. Ses pourvoyeurs sont partis. Elle reste seule dans un pays étranger, une contrée qu'elle ne maîtrise pas, une contrée qu'elle ne maîtrise pas, avec des filles sans leur mari. C'est la tristesse totale. Comment sont-ils arrivés là-bas? Parce qu'ils étaient en train de chercher la vie. Élimélec les amène à Moab pour trouver refuge. Mais il ne savait pas qu'il allait à un endroit où il allait trouver sa mort. Quand il regarde de loin, il se dit c'est là que ça ira. Mais quand il arrive, avant même de savourer ce qu'il pensait être bon, il meurt. Alors qu'il y allait pour chercher des mœurs, ce qu'il a trouvé, il a trouvé sa tombe. Et ceci me rappelle d'un passage dans Marc chapitre 8, au verset 35, c'est Christ qui parle. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui acceptera de la perdre à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. C'est confier au Seigneur de foi, paraît comme perdre. Parce que quand je vois, quand je regarde, je me dis c'est ça qui est bon. Mais quand je me confie au Seigneur, des fois, il me demandera de faire ce qui n'est paraît pas. Dieu me dira c'est ça, c'est là que je te veux. Mais toi, tu regardes, tu dis mais c'est là que ça va. Et on dit non, c'est là que je te veux. Il dit mais c'est là que ça va. Seigneur, ça va là-bas. Il dit je te veux là-bas. Il dit c'est lui qui voudra la sauver, va la perdre. Mais des fois, quand tu acceptes, perdre pour lui et dit tu seras en train de la sauver. C'est confier en les Seigneurs, en l'Éternel, c'est souvent accepter de mourir en soi pour que Christ règne, pour que lui conduise, pour que lui prenne la place et la place du maître. Dans la vie, nous allons rencontrer de moments difficiles, les choses ne vont pas marcher. Comme Élimélec, nous serons en face des situations qui vont nous demander de prendre des décisions. Mais j'aimerais que nous sachions qu'avant de prendre toute décision, prenons soin de consulter Dieu. Parce que l'endroit qui peut ressembler comme refuge, ça peut être l'endroit de la mort. L'endroit, ce qui peut ressembler comme étant ce qui est bon, peut être l'endroit où tu vas tout perdre. Le monde nous présente des choses. Et la vérité est celle-ci. Le pire que tu vis dans la volonté de Dieu est toujours meilleur que le meilleur que tu vivras loin de Dieu. Vous n'avez pas compris. Le pire que tu semblais vivre au milieu de la volonté de Dieu restera toujours meilleur s'il faut comparer au meilleur que tu veux vivre loin de Dieu. Loin de Dieu, le monde te présentera des choses qui te donneront l'impression d'être meilleur. Il vaut mieux choisir le pire et dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, la maison du pain produit toujours du pain. Aujourd'hui, il n'y a pas le pain, mais quand on reste dans la présence de Dieu, le pain viendra. Et malheureusement, nous le verrons plus tard, quand le pain est arrivé, Naomi est rentrée sans ses fils et sans son mari. Mais revenons pas à notre raison quand nous aurons perdu tout. Et acceptons de commencer avec le Seigneur avant de perdre. Et le message que je nous ai amené ce matin, c'est de nous dire, avant toute décision de la vie, consultons Dieu. Consultons celui qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Consultons celui qui peut agir là où nous ne pouvons pas agir. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Je ne sais pas où est-ce que toi tu te retrouves dans ton parcours. Alors que je me préparais, je disais au Seigneur, je le dis, mais donne-moi la grâce à moi aussi.